Gérard Filoche, bonjour.
Bonjour.
Ancien inspecteur du travail, auteur, d'ailleurs à ce titre, d'une trentaine de livres, beaucoup sur le droit du travail. Je peux citer quelques-uns des derniers. Comment résister aux lois Macron, El Khomri et compagnie, point d'interrogation en 2016. Un an avant, c'était pour en finir avec le chômage de masse, à la découverte, ou encore Vive l'entreprise, point d'interrogation, le code du travail en danger, aux éditions Hugo Doc. Et puis vous êtes également membre du bureau national du Parti Socialiste. On va commencer par la première de vos anciennes fonctions liées au travail. Avec cette manifestation qui a eu lieu mardi, deux autres sont prévues les 21 et 23 septembre. On avait annoncé une rentrée sociale plutôt chaude. C'est le cas pour vous ?
Oui, le 12 septembre a été un succès, contrairement à beaucoup d'interprétations que j'ai vues circuler. Je peux comparer avec les premières manifestations contre la loi El Khomri, et c'est de très bons niveaux pour commencer.
Vous soutenez tous ces mouvements ?
À fond, écoutez, 18 millions de salariés, même ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas lu les ordonnances, qui sont trompés ou qui comprennent pas la propagande gouvernementale, leurs intérêts vitaux sont en jeu. Le Code du travail, c'est un droit intime, essentiel, vital, même pour ceux qui, à un moment donné, ne connaissent pas le code. Ils ont besoin, à un moment donné, de se défendre vis-à-vis de leur employeur, pour leur dignité, pour leur salaire, pour leurs heures supplémentaires, pour leurs droits, pour leur licenciement. Et c'est tout ça qui est en cause. Et c'est comme une tornade qui s'abat sur les millions de salariés français. Et quand le gouvernement parle de ces ordonnances, il faut interpréter tout ce qu'il dit à l'envers. Vous savez, c'est comme ceux qui disent « je veux la paix » et qui font la guerre. C'est comme ce, et là ils vous disent on va défendre les branches, non, ils cassent les branches. Là ils vous disent c'est équilibré, non, c'est totalement déséquilibré.
Mais ils mentent.
Ah bien sûr,
c'est délibéré.
Délibérément, bien sûr. Écoutez monsieur Philippe et madame Pénicaud et interprétez ce qu'ils disent à l'envers, vous serez dans la vérité.
Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, Gérard?
Bah, allons-y point par point si vous me permettez. Quand ils disent on défend les petites entreprises, c'est faux. Les petites entreprises, il va y avoir un vide total du point de vue juridique, il n'y aura plus de délégués du personnel. Et vous savez que 97% des entreprises ont moins de 50 salariés, qu'elles font travailler 8 millions de salariés, c'est-à-dire 50%. Il n'y aura plus de délégués du personnel à partir de 11. 0 ou de 1 à 20, le patron pourra choisir son interlocuteur. Ça sera soit son comptable, soit son neveu. De 20 à 50, il pourrait avoir un élu, mais il sera plus mandaté par un syndicat, ni forcément syndiqué. Donc n'importe qui, ça sera encore le comptable ou bien le neveu du patron. Et quand vous arriverez à 50, vous commencerez à avoir des institutions représentatives du personnel. Mais quelle est la conséquence de ça? C'est qu'il faut comprendre la hiérarchie des entreprises en France. Vous avez 1000 entreprises de plus de 1000 salariés qui font 50% du produit intérieur brut. En dessous, vous avez 200 000 entreprises environ qui vont aller entre 11 et 1000. Et ces entreprises-là sont à 80% sous-traitantes des grosses. Et donc, quand vous enlevez des droits dans les petites, c'est les grosses qui en bénéficient. C'est-à-dire qu'elles pompent, elles pompent, elles pompent. Vous enlevez en gros des protections que les salariés peuvent avoir pour contrôler leurs heures, etc. Et oui, vous enlevez des délégués, vous enlevez de l'information, vous enlevez de la protection en hygiène, sécurité, santé, ça, le gouvernement n'en parle jamais. Et quand c'est comme ça, c'est la grande entreprise qui commande, qui passe le marché, qui est de nos ordres, qui l'emporte. Et donc en vérité, quand ils disent on protège les petites, c'est les grandes qu'ils vont servir. Vous voulez un deuxième exemple pour les branches? Alors les branches, ils disent on a protégé les branches. J'ai entendu même des dirigeants syndicaux qui disent ça. Je ne vais pas vous accabler, j'ai 43, madame, dérogations qui sont du niveau de l'entreprise, qui concernent toute la vie de l'entreprise. La durée quotidienne du travail, la durée hebdomadaire du travail, les congés, les différents types de congés, et il y en a beaucoup. 43 dérogations qui sont maintenant du domaine unique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a morcelé le code du travail boutique par boutique. Or, le droit du travail, ça n'est pas un droit des entreprises. Le droit du travail, c'est un droit des salariés qui sont dans les entreprises. Je vais même pousser le bouchon. Le droit du travail, ça permet de résister aux entreprises, à leurs exigences. Ça défend les humains, les femmes et les hommes qui travaillent. Ça défend pas le chef de l'entreprise.
Mais c'est précisément un argument qu'utilisait sur cette même antenne Pierre Gattaz, le président du MEDEF, au matin de France Culture, au micro de Guillaume Herner cette semaine. Il disait justement, le but de cette réforme du Code du travail, c'est précisément de redonner du pouvoir aux salariés. Ça va peut-être vous étonner, Gérard Filoche, mais il disait comme le but, c'est de faire baisser le chômage, eh bien, une fois que le chômage aura baissé, le salarié mécontent pourra donc trouver du travail ailleurs et pourra aller voir ailleurs s'il n'est pas content de son employeur.
Madame, vous faites l'avocate de M. Gattaz, mais j'entends bien.
Ce qu'il a dit.
Mais les bras m'en tombent. le chômage va augmenter avec ça. Dès que vous avez une dérégulation du droit du travail, ça nourrit le chômage. Vous allez, quand vous flexibilisez les gens, vous les faites travailler deux fois plus à la place de gens qu'on n'embauche pas. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. Ça fait pas des emplois, ça fait des sous-emplois ou des faux emplois. Et en plus, ça ne va pas même pas dans son langage à Gattaz de la compétitivité. Parce que qu'est-ce qui est compétitif? C'est quand vous avez des salariés bien formés, bien traités, bien payés. Ce sont ceux-là qui produisent le mieux. Alors pourquoi va-t-on augmenter le nombre de salariés qui ne sont pas compétitifs? Je ne comprends même pas comment Gattaz peut essayer de nous tromper avec des arguments de la sorte. Et quand vous avez la facilité de licencier, à quoi ça sert de faciliter les licenciements? À faciliter les licenciements, à rien d'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir des milliers de gens qui vont se retrouver dehors sans cause réelle et sérieuse, sans motif. Et c'est bien ça. Alors maintenant, on arrive même à des choses caricaturales, puisque quand on arrivera devant les prud'hommes, l'employeur aura le droit à l'erreur et aura pu mal formuler sa lettre de licenciement, qui fera s'écrouler la défense du salarié qui protestera contre un licenciement abusif. C'est-à-dire qu'en vérité, dans pratiquement tous les domaines, la désorganisation, l'anarchie qui va être introduite dans les relations de travail va permettre seulement au patron d'augmenter son autorité et de grossir ses marges, et va lui permettre de diminuer le nombre de salariés et de les licencier plus facilement à son gré. Gattaz est un menteur, excusez-moi de le dire comme ça, et les gens le savent d'ailleurs quand ils l'écoutent. C'est l'homme qui parle le plus d'austérité et qui en fait le moins pour lui-même et pour ses propres impôts.
Vous êtes un homme de gauche, Gérard Filoche, c'est donc une mesure de droite pour vous? Vous êtes dans l'opposition,
madame,
aujourd'hui?
Vous savez, le Code du travail, c'est un siècle d'histoire. Il est né en 1906 à la catastrophe de Courrières, je peux le dire en quelques mots. C'était un coup de grisou, c'était le 10 mars 1906 qui a tué 1099 mineurs. Savez-vous que la veille, un agent de sécurité avait alerté l'employeur de la mine en lui disant « il y a un incendie là, faut pas aller travailler demain ». Évidemment, l'employeur avait dit « on y va quand même ». Et 1099 morts. Et après, l'employeur dit « faut aller travailler » avec des arguments, j'allais dire on était en 1906, mais de Gattaz d'aujourd'hui. Du genre, si on prend pas le travail, le charbon polonais va arriver, et si on reprend pas le travail, j'ai plus d'argent, je ferme la mine. Et donc, il avait fait reprendre le travail. Et 20 jours plus tard, c'est-à-dire le 30 mars 1906, 14 mineurs étaient sortis de leurs propres moyens des galeries. Vous imaginez dans quelles conditions. Alors, à l'école, il n'y avait pas BFM télé, tout ce que vous voulez, mais la France avait été impactée par ça. Et la décision qui avait été prise, c'est de construire à ce moment-là le ministère du Travail, écoutez-moi bien, contre le ministère de l'Économie, pour défendre une bonne fois pour toutes les salariés contre ce type d'exigence et de comportement patronal. C'est ça la racine du Code du Travail. Alors quand François Hollande, il y a 2 ans, s'est permis de dire exactement ça, nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises, en une seule phrase, c'était une contre-révolution théorique, politique, juridique, pratique, historique, parce que ça faisait un siècle qu'on se battait pour que les entreprises s'adaptent aux besoins des salariés et non pas l'inverse.
Gérard Filoche, cette semaine, c'est le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui est monté au créneau mercredi sur l'état de l'Union dans son discours au Parlement européen. Il a annoncé vouloir une Europe qui protège. C'est lui qui a parlé de la protection. Une Europe qui protège mieux ses travailleurs contre le dumping social. Il a déclaré, je le cite, « Dans une union entre égaux, il ne peut y avoir de travailleurs de deuxième classe. Ceux qui effectuent le même travail au même endroit doivent pouvoir obtenir le même salaire. »
Excusez-moi de sourire encore. Alors, qu'est-ce que c'est les travailleurs détachés? Les travailleurs détachés, on a 450 000 en France. Ils sont discriminés. Les patrons français peuvent les faire venir avec des sous-traitances en cascade et les payer moins cher que les salariés français puisqu'ils ne payent pas les cotisations sociales au niveau qui est celui de la France. Ils les payent au niveau bulgare ou au niveau hongrois. Donc vous avez 400, rien que pour la France, 450 000 travailleurs qui n'ont rien à voir avec le discours de Juncker là, qui viennent les visiter dans les chantiers où ils travaillent 7 jours sur 7, où ils sont payés 2 euros de l'heure, où ils ont 3 niveaux de sous-traitance et où ils sont à côté de salariés français, ils gagnent moins qu'eux. Et les patrons font des marges dessus. D'où viennent les marges des patrons du bâtiment? Parce qu'on a 250 000 ou 350 000 travailleurs détachés dans les bâtiments. Si Juncker était conséquent avec ce qu'il dit, immédiatement il dénoncerait la directive travailleurs détachés européenne pour qu'il y ait au moins égalité, travail égal, salaire égal. Et c'est ça qu'il faudrait faire immédiatement. D'ailleurs, je comprends, Macron s'est agité beaucoup sur cette question, c'était en dernier, mais il n'a rien fait. Parce que Macron, il dit, ouais, il faudrait pas plus de 3 mois de CD, enfin des CDD de travailleurs détachés. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est une discrimination fondamentale entre travailleurs européens, puisqu'on en paye moins les uns par rapport aux autres dans les mêmes pays donnés. Non seulement ça doit être le même droit dans un seul pays, comme on dit, dans chaque pays son droit, et d'autre part, il devrait y avoir se battre pour un SMIC européen. Il parle de SMIC européen, Juncker, il est même pas assez progressiste pour imaginer qu'on peut avoir un SMIC européen. Alors c'est fondamental si on veut faire une Europe.
Gérard Filhoche, vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste, Parti Socialiste qui est sorti laminé, parfois certains ont dit mort, des dernières élections présidentielles et législatives. Quel est l'état du Parti Socialiste, qui est votre parti hein, depuis longtemps, depuis les élections? Mort, ressuscité, malade, en convalescence?
Le pronostic vital est engagé. Il est sûr que le prochain congrès sera un congrès décisif. Il est prévu en février. Il y a quelques manœuvres avant pour essayer de changer les statuts avant qu'on parle politique. D'ailleurs, je dénonce ces manœuvres. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt le 28 septembre prochain pour les militants de voter sur je sais pas quoi.
Sur une feuille de route, hein. Pour l'instant,
ouais,
ils sont d'accord
question,
sur une feuille de route.
La question, c'est pas la feuille. La question, c'est la politique. C'est-à-dire, quelle est l'orientation? Quel est le bilan du quinquennat? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu?
Vous avez une réponse?
Ah oui, j'en ai une réponse, bien sûr. Parce que quand François Hollande est arrivé, on avait tout. Il y avait le Sénat, l'Assemblée, 2 villes sur 3, 20 régions sur 22, 61 départements sur 100, plus la présidence. Il nous a fait perdre 5 élections. Plus 2, là, les présidentielles, et 7 élections en 5 ans. C'est-à-dire, vous partez, vous commencez avec Hollande, vous finissez, vous n'avez plus rien. Alors, soit c'est le peuple qui se trompe, soit c'est Hollande qui s'est trompé. Moi, c'est
Jean-Christophe Cambadélis a dit que ce qui était en cause, c'était la crise du courant progressiste et social-démocrate mondial et l'individualisme arrogant qui s'est emparé du
socialisme. Oh, bah alors, avec des phrases comme ça, vous en trouvez des excuses. Alors là, c'est le monde entier, c'est pas la politique de Hollande. Moi, je dis c'est la politique de Hollande. Fallait pas faire le CICE. Fallait pas faire la loi El Khomri. Fallait pas parler de la déchéance de nationalité. Fallait redistribuer les richesses. Fallait aller jusqu'au bout de la réforme fiscale et bancaire qui était promise. Fallait augmenter le SMIC. Vous vous rendez compte? Qu'en 5 ans, sous la gauche quand même, le SMIC n'a pas été augmenté, mais que les dividendes ont fait une culbute extraordinaire. De l'histoire de France, jamais les dividendes n'ont été aussi élevés. Et c'est facile de comprendre qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre. En général, quand la gauche arrive, elle augmente quand même les salaires, elle donne aux salariats quand même, c'est sa base sociale, le salariat. Là, rien, rien, les inégalités sont plus grandes. Alors il me dit, de temps en temps, François Hollande ressort, il dit, j'ai des bons chiffres à la fin. Mais c'est des bons chiffres pour les riches. C'est pas des bons chiffres pour nous. Les bons chiffres en question, c'est de regarder que le chômage, c'est 6 600 000 personnes et qu'on en a 1 300 000, toutes catégories confondues, de plus à la fin du quinquennat qu'au début. Donc ce qu'il faut que le Parti Socialiste, pour qu'il s'en sorte, c'est qu'il soit lucide là-dessus. Il ne faut pas chercher à masquer.
Il est en capacité de l'être? Ça fait des années que vous dites ça, Gérard Filhoche, vous n'avez jamais été entendu.
Et alors, pourquoi je ne le serais pas? Je suis candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Je suis candidat pour me présenter. Et je vous dis que si je gagnais, il y aurait 100 000 adhérents le lendemain de plus au Parti Socialiste. Je le dis sans hésiter, sans modestie, parce que les gens ont besoin de gauche. Comme ça s'est passé avec le Labour Party, avec Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne. Parce que finalement, Hollande nous a fait du Tony Blair. Et Tony Blair avait liquidé le Labour Party. Il n'y avait presque plus rien. Et quand Jeremy Corbyn s'est présenté, ils ont fait comme avec moi. Ils ont essayé qu'il se présente pas. Ensuite, ils ont dit qu'il avait pas assez de signatures. Ensuite, quand il s'est présenté, ils ont dit c'est pas le bon, il repasse pas ses chemises, il parle pas bien, etc., etc. Et puis les salles se sont remplies. Le Labour Party est passé à 600 000 membres. C'est-à-dire que ils ont essayé une deuxième fois d'attaquer Jeremy Corbyn après le Brexit. Et il a gagné une deuxième primaire.
Donc vous êtes le Corbyn français.
C'est flatteur de me dire ça,
mais écoutez,
si vous me le dites, oui, c'est mon ambition.
Retournez pas les choses.
C'est mon ambition.
Mais Gérard Filhoche, qu'est-ce qui vous fait rester au Parti Socialiste aujourd'hui? Pourquoi le Parti Socialiste? Pourquoi pas le mouvement du 1er juillet, Benoît Hamon, qui avait vos faveurs lors de l'élection? Pourquoi pas rejoindre Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi rester au Parti Socialiste?
Alors, je vais vous dire. D'abord parce que je suis par principe pour des partis démocratiques, pluralistes, avec des statuts. Je suis contre des partis où on tire au sort. Pour moi, c'est pré-néolithique. Je suis contre l'idée qu'il y a des partis verticaux, plébiscitaires, avec des chefs. Ça marche pas. Ni pour la gauche, ni pour la droite. Hein. Et donc, je suis pour des partis qui soient vraiment transversaux, dans lesquels les gens se sentent bien. Faut discuter. Et il y a des gens qui disent, oui, vous avez trop de discussions, trop de tendances. Tant mieux! Pourvu qu'à la fin, on trouve une issue commune et que l'unité de la gauche se fasse. Et donc, moi, je préfère le Parti Socialiste de ce point de vue-là. Ensuite, après, je dis, il y a quand même entre 2 400 000 électeurs qui restaient pour Benoît Hamon. 6 millions aux dernières régionales, ça reste le parti principal, qui a encore à peu près 10 000 élus, et qui dirige encore 30 départements et 2 régions, et qui a quand même un petit poids encore là, et surtout dans la tête, dans la conscience des gens, dans les territoires. Et donc ça, ce parti-là, on a besoin de lui à gauche. Mais évidemment, il faut qu'il revienne totalement à gauche. Il faut qu'on liquide ce passif hollandais, si je peux me permettre. Et il faut qu'on fasse un collectif national permanent de toute la gauche. Ça, c'est mon ambition principale.